Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'Académie des sciences morales et politiques vient de publier aux éditions du Seuil en janvier 2007 un livre intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Les jeunes sont-ils victimes de l'état actuel du marché du travail et de sa réglementation ? Quelles sont les conséquences de l'allongement de la durée des études ? Voilà les principales questions abordées dans l'ouvrage. L'accès à un emploi stable s'est désormais décalé dans le temps pour la plupart des jeunes en France. Il en résulte de nouveaux comportements, de nouvelles dépendances entre les générations. Les jeunes, en effet, gagnent leur autonomie réelle pour fonder leur propre foyer beaucoup plus tardivement qu'autrefois. On est donc jeune aujourd'hui de plus en plus longtemps. Quelle place notre société offre-t-elle aux jeunes entre 15 et 30 ans ? Quel avenir réservons-nous aux générations futures ? Le livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » engage l'Académie des sciences morales et politiques. Son écriture est le fruit d'une démarche collective peu commune. Il est co-signé par deux anciens premiers ministres, Pierre Messmer et Raymond Barre, par trois autres membres de l'Académie, Michel Albert, Marcel Boiteux et vous-même Gabriel Debreuil, ainsi que par trois experts sans lien avec l'Académie, Christian de Boissieu, qui préside le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, Jean-Michel Charpin et Jean-Philippe Cottis. Canal Académie a réalisé une série d'émissions à l'occasion de la publication de l'ouvrage. Retrouvez les auteurs du livre en téléchargeant nos émissions, Michel Albert sur le diagnostic d'une jeunesse discriminée, Marcel Boiteux sur le thème particulier de l'emploi, Raymond Barre sur l'état du système français d'éducation et Christian de Boissieu sur les nouvelles dépendances familiales, le poids des retraites et de la dette. Aujourd'hui, je vous propose de développer le sujet des droits acquis et l'avenir de la jeunesse avec l'un des 9 co-auteurs de l'ouvrage, Gabriel Debreuil, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Académie française et chancelier de l'Institut de France depuis 2006. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Gabriel Debreuil, au cours de votre parcours, 3 domaines ont eu votre préférence, le Conseil d'État, l'audiovisuel et la langue française, à propos de laquelle vous écrivez « Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti le français comme une fibre de mon être ». Vous êtes entré au Conseil d'État en 1960, vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels, parmi lesquels on peut évoquer les noms d'André Malraux, de Jean-Marcel Jeanneney, de Maurice Schumann. Vous vous êtes également consacré pendant 18 ans au domaine de l'audiovisuel, à la tête de l'ORTF dans les années 70, à Radio France. Vous avez été président de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et président de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Depuis 1981, vous participez aux différentes instances de la langue française. Vous êtes passionné d'histoire et de bibliophilie. Vous avez écrit sur le Conseil d'État, sur la télévision, homme de lettres, historien, on vous doit une biographie de Guizot, un ouvrage sur l'orléanisme ou la ressource libérale de la France, sorti en 1981, et Le français pour qu'il vive en 1987, pour ne citer que quelques-uns de vos ouvrages. Alors Gabriel Debreuil, vous avez signé aujourd'hui avec vos confrères l'ouvrage intitulé « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » qui part du constat suivant, la situation économique de la France est mauvaise et la société française est désenchantée. Alors, en résumé, l'ouvrage met l'accent sur 3 points importants, sur la détérioration des conditions d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Leurs aînés, les 30-55 ans, bénéficient d'une plus grande stabilité, d'une protection de l'emploi, pour reprendre les termes employés. Vous observez une dualité entre les exclus et les inclus sur le marché du travail, dualité que vous pointez également entre les sélectionnés et les laissés pour compte dans notre système d'éducation. De cette évolution qualifiée de pernicieuse dans l'ouvrage, il résulte une forte dépendance des jeunes à l'égard de leur famille, avant de pouvoir à leur tour fonder leur propre foyer, et ce retard dans la vie d'adulte n'est pas sans conséquence sur la gestion des grandes questions comme la question des retraites, sur celle de la dette publique qui pèsera et qui repose déjà sur les épaules des générations futures. Monsieur le chancelier, au cours des émissions que nous consacrons à la publication de cet ouvrage, avec quelques-uns des auteurs. Nous n'avons pas encore développé l'angle juridique, le sujet du droit, de la réglementation du travail. Et est-ce que la législation est un facteur ou un frein pour l'avenir de la jeunesse? Et pour commencer notre entretien, je vais lire un court extrait du livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », justement sur ce point. Alors je cite « Si plus que celle d'autres pays, la jeunesse française passe depuis les années 80 de l'espoir à l'inquiétude, voire à l'anxiété devant l'avenir, c'est bien en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements qui prennent racine dans les profondeurs de la société. Ainsi, le corporatisme de certaines professions, ainsi l'intouchable protection de tant de droits acquis par les uns et inaccessibles par les autres, cela ne saurait durer sans exposer le pays à des risques majeurs. » Monsieur le chancelier, en tant que conseiller d'État pendant des années, comment définissez-vous les droits acquis dont il est ici question?
Si vous le permettez, je voudrais dire un mot d'abord sur l'originalité de ce livre. C'est une démarche particulière que celle qui amène un groupe d'auteurs, nombreux, n'est-ce pas, 8 auteurs, à publier un livre pas long, mais un livre fort, sur un sujet préoccupant et qui est au centre du débat public, de beaucoup de débats public, mais qui n'est pas du tout un livre politique. Ce n'est pas un livre programme. C'est une analyse de tendances lourdes de la société française qui se sont installées depuis plus de 20 ans, sous quelque gouvernement que ce soit, sous quelque majorité parlementaire que ce soit, et qui ont des effets, en effet, pernicieux sur le plan économique, mais peut-être surtout sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan des relations entre les générations. Les analyses que nous faisons sont des analyses précises, dans certains cas même pointues.
Ça s'appuie même sur des analyses scientifiques qui ont été commandées.
Oui, c'est ça. Nous avons essayé, en nous fondant sur les travaux existants, mais des travaux qui sont des travaux de chercheurs, qui ne sont pas les livres à succès que l'on voit dans les librairies. Ce sont des travaux de chercheurs, des instituts de recherche, de publication.
En particulier le Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEPREMAP.
Le CEPREMAP. Et le CEPREMAP lui-même incorpore beaucoup de recherches effectuées dans d'autres instituts de recherche publics ou universitaires. Et à partir de là, nous essayons de dégager des ratios, des notions qui expliquent ce que l'on ressent confusément. C'est-à-dire que le titre dit un peu tout, la France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Donc c'est un problème français, c'est un problème qui ne touche pas uniquement la jeunesse, qui touche l'ensemble de la société française. C'est la France qui prépare mal. C'est pas les jeunes, comment vivent-ils aujourd'hui? C'est la France dans son entier, c'est-à-dire la société, pas le gouvernement, pas telle ou telle institution. Non, la société, la nation France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Alors, c'est une démarche un peu neuve qui, je le souligne encore, n'est pas un livre-programme, ni politique, ni économique, ni social. Il n'y a pas de recommandations dans ce livre. Il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de...
Il y a quelques pistes.
Il y a quelques pistes, c'est ça. Mais, en tout cas, les traits sont bien soulignés de manière assez nette. Pour qui sait lire? C'est un livre où il y a pas mal de choses, mais il faut savoir les trouver, les chercher et les trouver. Et nous les avons répartis en 3 têtes de chapitre qui s'imposent d'ailleurs. C'est le marché du travail, quelle situation est faite aux jeunes pour leur accès au marché du travail et pour leur situation dans le travail. Ce n'est pas exactement les jeunes qui sont l'objet de l'étude, c'est la société française, quelle situation fait-elle aux jeunes pour accéder au marché du travail, n'est-ce pas? C'est une réflexion globale. Deuxièmement, la formation, évidemment. Là aussi, c'est la société qui est en cause. C'est pas les jeunes travaillent-ils assez quand ils sont à l'école ou dans leur collège ou dans l'université ou dans leurs écoles pratiques. Non, c'est comment est-ce organisé. D'où la notion d'une société duale qui prend naissance au moment de la formation et qui se perpétue au moment de la vie du travail. Et puis alors, le troisième angle, qui est tout à fait intéressant, peut-être le plus neuf, ce sont les relations entre les générations et toute une série de données qui sont tout à fait importantes pour connaître la psychologie collective, sociale, de la société française par rapport aux jeunes et des jeunes par rapport à la société. Nous abordons des questions comme le logement, qui est si important, et ce phénomène que les jeunes dépendent des générations antérieures qui les précèdent pour se loger, ce qui est une situation relativement neuve. Mmh. Il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. Mmh. Et 50 ans non plus. Bien sûr, il n'y a pas de programme, il n'y a pas un catalogue de mesures, contrairement à bien d'autres rapports dans ce domaine, mais il y a, comme vous l'avez dit, des pistes. Sur un ton un peu distancié, ce n'est pas du tout un pamphlet, loin de là. Ce n'est même pas un essai, peut-être. Un essai serait plus vif dans le ton. C'est une analyse, mais sur des points cruciaux.
Sur des enjeux majeurs. Qui nous concernent tous.
Oui, majeurs, qui nous concernent tous, en effet.
Justement, la grande idée quand même du livre, c'est de montrer ou de pointer cette évolution d'une catégorie plus protégée qu'une autre. Tout en cherchant justement à donner un juste constat de l'état de la jeunesse actuelle, c'est en se rendant compte de la protection qui touche une partie des salariés entre 30 et 55 ans, qu'on peut justement mieux se rendre compte des difficultés d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Alors, pourquoi est-ce que la protection est si importante dans la législation sociale par rapport au travail, justement ?
Alors, c'est une donnée très générale.
C'est normal, mais...
Oui, qui est historique, d'ailleurs, mais qui est peut-être poussée à un point extrême dans la société française d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Des raisons générales. D'abord, la protection de l'État. L'État intervient dans tous les domaines en France, beaucoup plus que dans d'autres pays étrangers. Ça, c'est une des choses. L'autre, c'est une sorte de déformation de l'esprit français, qui est le goût de l'uniformité. Nous sommes un pays admirable, beau, peut-être le pays le plus agréable au monde. Au fond, nous le ressentons. Et nous avons le goût de l'uniformité. Et alors, venant tout de suite à côté de l'uniformité, il y a la notion de privilège, mais surtout de privilège pour tous. Il y a un autre point qui est présent dans le livre à peu près constamment, c'est la conception du travail un peu étriquée, et même, disons-le, une réserve générale à l'égard du travail. Le travail est considéré dans les analyses générales de tous les intervenants français au cours de cette période, donc des 20 ou 30 dernières années, comme une sorte de gâteau qui existe et qu'il faut partager. Le gâteau ne va pas croître et il faut le partager entre ceux qui sont parties prenantes. Moins il y a de parties prenantes et plus la part de chacun sera belle, bonne et importante. Le travail est considéré comme une quantité limitée qu'il ne s'agit pas d'accroître, parce que d'accroître le travail, ça ne crée pas l'enrichissement de chacun, de ceux qui travaillent.
Et donc, l'autre option étant de faire grossir le gâteau.
Voilà. Alors, ça, c'est une conception extrêmement nocive. En réalité, le travail crée le travail, que toutes les économies dans le monde sont fondées sur le travail comme valeur et comme moyen de croissance. Et la France devrait ouvrir les yeux sur l'extérieur et arrêter de considérer que moins on travaille, mieux ça va. Et que si on réduit la durée du travail au départ de la vie en reculant l'entrée des jeunes sur le marché du travail, deuxièmement, à la fin de la vie, en abaissant l'âge de la retraite, comme si c'était une conquête sociale que de raccourcir l'âge de la retraite, alors que beaucoup de nos contemporains, nos compatriotes, considèrent qu'ils pourraient encore exercer des fonctions, pas forcément les mêmes, bien entendu, mais en tout cas, exercer un travail après l'âge légal de la retraite, et en tout cas que la tendance et même le progrès social n'est pas d'abaisser l'âge de la retraite, mais au contraire de l'élever. Ça serait une démarche qui améliorerait la situation de tous. Et alors, pendant la durée du travail, eh bien, c'est les fameuses 35 heures qui reflètent une conception que ce livre démonte et stigmatise, il faut le dire sans prendre parti politiquement, mais c'est la notion même, n'est-ce pas, de réduire la durée du travail comme étant un progrès social, ça n'est pas vrai.
Voilà, c'est un des grands points de l'ouvrage, cette idée que le travail ne se partage pas,
voilà.
En fait. Gabriel de Breuil, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir sur le sujet des droits acquis et l'avenir de la jeunesse dans quelques instants. Nous retrouvons Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut et co-auteur de l'ouvrage « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » avec ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Gabriel de Breuil, nous revenons donc sur le sujet des droits acquis et l'avenir de la jeunesse. Mais tout d'abord, comment peut-on définir ces fameux droits acquis ?
Alors, les droits acquis, c'est une expression. Et une expression qui est employée en dehors de son domaine d'origine. Et elle est devenue une sorte de mythe, mythe social. Il y a des droits acquis. Et c'est en ce sens que ce livre a une démarche originale. Il s'agit de passer un rayon laser, un certain nombre de notions qui font partie de l'air du temps, et de voir quelle est leur réalité, quel est leur intérêt économique et social. Alors, les droits acquis naissent d'une conception générale qui a été établie, qui s'est installée au cours de la période précédente, c'est-à-dire du demi-siècle, peut-être si on veut d'un peu plus que ça, des 60 ou 80 années qui ont précédé, et qui est que la situation favorable, disons, c'était que les jeunes trouvent un emploi au début de leur vie active, que cet emploi était un emploi à temps plein, à durée indéterminée, et même avec un employeur fixe, souvent pour la durée de la vie. Et ça, c'était le bonheur. Enfin, le bonheur.
C'était le modèle traditionnel.
Et évidemment, si cet employeur peut être l'État, et si la carrière peut être une carrière de fonctionnaire, alors ça, c'est le rêve des familles. Ça a été vrai. Et il s'est développé une conception de l'emploi qui voulait qu'il soit difficile au départ d'entrer dans les meilleures filières, mais c'est à cela qu'il fallait tendre, et le système d'éducation tend à cela. Et puis, une fois qu'on était entré, alors on était tranquille pour une carrière complète. Ça, c'est aussi très agréable, évidemment. Ce n'est pas forcément très efficace sur le plan professionnel, sur le plan de la formation, de la post-formation, n'est-ce pas, de la formation des adultes. Mais enfin, c'est comme ça.
C'est le modèle qu'ont en tête la plupart des Français.
Voilà. Alors, il y a l'avancement, et la retraite, enfin. Alors, ce système, ce modèle, on comprend qu'il soit un peu dans l'esprit des générations antérieures. Est-ce que c'est un système bien actuel ? Il semble que non. Semble que le travail doive être réexaminé en fonction de données plus modernes qui sont que la progression à l'ancienneté n'est pas forcément la meilleure organisation professionnelle et sociale et qui sont que le contrat à temps complet à durée indéterminée avec une forte protection n'est pas forcément la situation qui naturellement installe la meilleure situation sociale au regard de l'emploi, c'est-à-dire qui assure le plein emploi. Car ce système que nous développons, que nous avons encore dans notre esprit, il coexiste avec un taux de chômage insupportable.
Et il existe aussi différents contrats aujourd'hui qui révèlent la flexibilité du travail.
Voilà.
Et il y a donc une cohabitation des deux systèmes,
la tendance
en quelque sorte.
Est née très récemment.
Voilà.
Très récemment.
Oui, oui, c'est vrai.
Devant
c'est vrai.
Une situation qui avait duré.
Et qu'on a encore en tête.
Mais à cette situation, c'est une carrière complète et 10% de chômeurs, ce qui est intolérable. Il y a peut-être une relation entre les deux. Il y a une relation entre les deux. Et donc, la précarité est une chose terrible, mais ce n'est pas la flexibilité du système de travail qui crée la précarité, c'est le chômage qui le crée. Et donc, regardons ce qui se passe à l'extérieur, les pays scandinaves, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne. Ce problème a été affronté beaucoup plus naturellement que nous, parce que les données scientifiques, les données professionnelles précises y conduisent. Alors, les droits acquis.
Oui, est-ce qu'on peut les modifier ?
L'expression,
au moins...
d'où est-ce que ça vient ? Ça vient du Code du travail. Alors, nous avons un magnifique Code du travail dont le volume croît dangereusement. Qui peut le connaître dans le détail ? Vraiment un grand spécialiste. Mais... Notre livre, d'ailleurs, ne dit pas du tout qu'il faut réformer, modifier.
Non.
C'est pas simplement, là, puisque vous m'interrogez sur les droits acquis, je dis que la notion de droits acquis figure dans le Code du travail.
Mm-hmm.
Mais elle figure de manière bien précise. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des normes du travail et que la notion de droits acquis est la traduction, en quelque sorte, de cette hiérarchie. C'est-à-dire que l'individu, la personne, particulière à un contrat de travail, que ce contrat de travail ne peut pas être modifié unilatéralement par l'employeur, c'est un contrat, donc il faut que les deux parties soient d'accord, que ce contrat est encadré par des accords collectifs d'entreprise, elle-même encadrée par des conventions collectives un peu plus générales de profession, elle-même encadrée par des conventions collectives nationales et par un code du travail. Alors, les droits acquis, à un moment donné, c'est ce qui découle de cette hiérarchie des normes et qui aboutit au régime particulier du travailleur. Le travailleur a un droit acquis à ce que les termes de son contrat ne soient pas modifiés unilatéralement. Et il n'existe pas de droit acquis collectif disant que les situations sociales ne peuvent pas être modifiées parce qu'elles font partie de droits acquis. C'est cette extension de la notion
cette
de droits acquis en dehors de son territoire d'origine, qui est légitime, qui fait que la notion de droits acquis est devenue un mythe et que c'est un mythe qui n'a pas sa raison d'être, qui est injustifié et qui est anti-économique. Il n'y a pas de droits acquis dans l'économie. Il n'y a pas de droits acquis à l'équilibre d'une entreprise. Il n'y a pas de droits acquis à l'extension d'un marché ou à la permanence d'un produit contre ses concurrents. Étendu comme cela, la notion de droits acquis est une négation des lois de l'économie, du principe de concurrence et du marché. Alors, ce mythe, je crois qu'il est intéressant de le dire, il a été élevé à la hauteur d'une grande règle constitutionnelle même, à un moment donné. Et ce moment, c'est en 1986, lorsque François Mitterrand étant président de la République, il y a eu la première cohabitation et une loi d'habilitation de la majorité parlementaire a donné au gouvernement la mission de prendre un certain nombre de mesures par ordonnance. Et ces mesures s'inspiraient d'un effort de modernisation. Et donc, en 1958, ça a été la commission Rueff-Armand qui a établi un certain nombre de mesures de catalogue qui tendaient à éliminer les obstacles au progrès de l'économie. Cette catégorie, cette liste, ce catalogue, a toujours sa valeur.
Peu de choses auraient changé ?
Les mesures sont toujours à l'étude. Et alors, à certains moments, il faut essayer de faire bouger les choses. Et donc, voilà les lois d'habilitation de 1986. Le président de la République a déclaré qu'il refuserait de signer les ordonnances prises sur habilitation du Parlement.
Mmh.
Or, le président de la République promulgue les lois. Il est tenu de les promulguer. Il signe les ordonnances. Et il a déclaré « Je ne signerai pas des ordonnances qui marquerait un recul des droits acquis. C'était figé la situation économique de la France. Pas de commission réformant, pas d'effort de modernisation, non, on ne touche pas aux droits acquis. Alors, la notion de droits acquis là, elle n'a rien à voir avec le code du travail. C'est, il y a des droits acquis dans la société. Ça, non, on ne bouge pas. Et donc, c'était une position politique, évidemment. Le président Mitterrand a signé nombre de mesures pendant ces deux septennats qui étaient une modification des droits acquis. Évidemment, c'est la vie. Beaucoup de mesures ont modifié les droits acquis. Il n'y a pas de mesure neuve qui ne modifie pas des droits acquis. Donc, il n'a jamais dit à un gouvernement de sa tendance, je ne signe pas parce que c'est une modification des droits acquis. Là, c'était une attitude politique, évidemment, circonstancielle. Mais à ce moment-là, la notion de droits acquis en économie, dans les organisations collectives globales, la notion a été élargie et elle a pris la dimension d'un mythe qui est anti-économique.
Gabriel Debreuil, est-ce que la société française est prête à changer ses mentalités ? Est-ce qu'il y a une nécessaire adaptation de la législation sociale ?
Vous avez vu que ce que j'ai dit sur les droits acquis n'est pas juridique. Et alors, il y a un domaine dans lequel cette notion trouve aussi son application. C'est dans la situation des retraites. Et il y en a un autre, évidemment. C'est les conséquences, c'est la dette publique. Mais on en a déjà parlé, j'imagine.
Oui.
On vous en a beaucoup parlé. Pour les retraites, est-ce qu'il y a droit acquis au système de retraite et au bon temps des retraites à travers les générations ? Il faut se rendre compte que les régimes de retraite tels qu'ils existent maintenant aggravent les déficits et le montant de la dette publique. Et toutes les courbes sont faites, elles sont établies et montrent que il n'est pas possible de maintenir le régime de retraite tel qu'il existe actuellement sur une distance de quelques années, de plusieurs années, et que l'effort a déjà été entrepris de modifier le régime des retraites.
Alors comment peut-il être modifié, ce régime
des
retraites ?
Attendez, nous ne faisons pas de propositions.
Non,
notre
mais
livre
dans ce
n'est pas
contexte-là. Donc
mais vous... il faut simplement que l'opinion française comprenne que les retraités actuels sont des privilégiés. Sont des privilégiés. Et que, évidemment, les retraités y tiennent à leur retraite actuelle et considèrent que c'est un droit acquis. On revient là. On peut considérer qu'ayant cotisé toute sa vie pour avoir une retraite, c'est un droit acquis. Simplement, il faut savoir que le système français des retraites n'est pas un système par capitalisation. C'est un système par répartition annuelle. Et le montant des retraites ne tient pas compte de l'équilibre démographique entre les générations. Et donc, si le niveau des retraites et les avantages particuliers qui sont maintenus, qui font partie du système des retraites, je ne le critique pas, bien entendu, et nous ne proposons pas de mesures pour les modifier. Simplement, il faut savoir que si le régime est maintenu, les courbes, les chiffres, les données démographiques montrent que la dette publique s'accroît de manière considérable. Notre propos n'est pas de proposer des solutions, ce n'est pas un catalogue de mesures. Il est de faire comprendre à l'opinion et à ceux qui ont des responsabilités sociales, quel que soit le secteur, que les lois de la démographie font que le régime actuel des retraites ne peut pas être maintenu sur une longue période parce qu'il aboutit à un alourdissement de la dette publique considérable et un alourdissement du poids qui pèse sur ceux qui travaillent actuellement.
Bon.
Mais ce que nous soulignons, c'est qu'il y a un lien entre la situation actuelle selon laquelle les retraités sont des nantis et la situation des jeunes selon laquelle les jeunes ne sont pas des nantis. La jeunesse est considérée comme variable d'ajustement d'un certain nombre de droits acquis des autres catégories de la population. Contrat à durée déterminée sur carrière complète avec progression, carrière pour les actifs, retraite par répartition. Garantie, quel que soit l'équilibre démographique, selon un système établie dans une situation antérieure où la proportion entre les retraités et les actifs n'était pas la même. Ce système n'est pas tenable. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer, non pas, on le sait très bien, mais l'intéressant c'était de le démontrer de manière précise, scientifique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans visée politique, mais pour faire réfléchir les responsables.
C'est l'intérêt de l'ouvrage, c'est justement d'insister sur une véritable prise de conscience de ces enjeux qui mettent en péril quand même la cohésion sociale du pays, si rien n'est fait.
En effet, ces notions que nous exposons dans ce livre sont à l'origine des tensions sociales qui existent dans notre pays. Et n'est-ce pas, la plupart du temps, le débat porte sur des conséquences du débat social. Les conséquences, c'est la situation des jeunes, difficulté de trouver un emploi, situation duale de l'enseignement, de l'activité professionnelle, situation au regard du logement, situation au regard de la dette publique, inacceptable en effet. Mais le débat ne porte pas sur les causes profondes. Et les causes profondes, nous avons souligné l'un des aspects. On peut prendre la même question sous un autre angle. Par exemple, on l'a pris dans un rapport très remarquable sous l'angle de la dette publique. C'est une autre manière de voir les choses, mais ce sont les mêmes choses. Si la France ploie sous le poids d'une dette publique qui ne fait que s'accroître et qui, si des mesures ne sont pas prises, alors deviendra un poids insupportable pour la société, eh bien c'est pour les mêmes raisons. Et donc, c'est une analyse convergente de gens qui regardent la société et essayent de rendre service pour la compréhension des phénomènes sociaux. Et dans ce sens, je crois que l'Académie des sciences morales et politiques est exactement conforme à sa vocation. L'idée des grands rapports qui contribuent à changer l'état des esprits est inhérente à l'Académie des sciences morales et politiques. On a déjà parlé sans doute des grands rapports de la monarchie de Juillet, du 19e siècle, sur le progrès social, sur le travail des enfants. C'est la même chose. Nous avons la même démarche, exactement.
Vous êtes fidèle à votre mission.
Voilà.
Monsieur le chancelier, nous venons de voir combien il était quand même difficile d'articuler la cohésion sociale et puis les nécessaires adaptations aux défis économiques compte tenu des mentalités de nos compatriotes. Merci d'avoir apporté votre éclairage sur la question de l'avenir de la jeunesse. Un avenir compromis si le courage politique ne l'emporte pas en vue de réformer vraiment ou de supprimer certaines protections. Tel est le cri d'alerte de vos confrères et de vous-même, des académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci, monsieur le chancelier.
Merci à vous.